Bonjour Cardinal François Bustillo.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir au micro et dans les studios de Radio Présence ici à Lourdes. Vous êtes présent dans la cité mariale à l'occasion de l'assemblée plénière des évêques de France ici au sanctuaire. On va aborder bien sûr les thèmes que vous abordez cette semaine avec vos confrères évêques, vos frères évêques. Et puis on va parler de beaucoup de choses, des églises diocésaines, de la communion, du patrimoine religieux aussi. On va vraiment essayer de balayer pas mal de sujets. On va commencer donc par cette assemblée plénière. Au tout début de l'assemblée, vous avez reçu avec tous vos frères évêques le patriarche œcuménique Bartholomé Ier, qui est le chef spirituel de l'église orthodoxe de Constantinople. Il vous a donné, offert, pour reprendre les termes de Mgr Mika il y a quelques minutes au micro de Radio Présence, il vous a donc offert un discours dans lequel il n'a pas mâché ses mots. Il a dressé un tableau du monde réaliste, certainement, mais quand même un peu rude, dans lequel il a quand même pourtant invité les chrétiens à être porteurs d'espérance. Je voudrais commencer par le citer. Il vous a dit ceci notamment. Nous le savons, la crise que traverse notre monde ne se limite pas aux tensions politiques, aux guerres ou aux déséquilibres économiques. Elle plonge plus profondément dans une blessure spirituelle. L'humanité a oublié son âme. Nous avons perdu le sens du sacré et avec lui le sens de la fraternité. Comment ces mots du patriarche ont résonné dans votre cœur d'abord de franciscain, d'évêque, de cardinal? Est-ce que, comme le patriarche Bartholomé, vous pensez que l'humanité a oublié son âme?
Moi, je sentis son discours d'une manière très, très belle et très directe. Je trouvais que dans son discours, il y avait de la provocation au sens étymologique. Donc, il nous rappelle notre vocation chrétienne. Et il a parlé d'une manière extrêmement libre, extrêmement direct. Il a parlé à ses frères évêques et catholiques. Et moi, j'ai reçu son message d'une manière très, très belle, parce que je me suis dit, mais quelle liberté cet homme. Il a 85 ans, il a une lucidité extraordinaire, et il est capable de nous dire, et de dire à la société française et au monde, attention à notre âme, attention au sacré. Parce qu'effectivement, il me semble que nous vivons un déficit de spiritualité. Et paradoxalement, beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes cherchent une spiritualité. Et ils vont partir dans des lieux exotiques. Et nous avons la chance, nous avons aussi la force de pouvoir dire à notre société, n'oublions pas qui sommes-nous et d'où venons-nous. Nous avons reçu par le baptême le sacré en nous. Il est en nous. Parfois, on l'oublie. Parfois, on est trop à l'extérieur, par les réseaux sociaux ou autres. Et on oublie notre âme.
Ça
on
veut
oublie
dire...
notre vérité.
Donc, on est en quête de spiritualité, mais on a oublié ou on ne sait plus que c'est dans le cœur du Christ qu'on peut trouver cette spiritualité.
Voilà, on est en quête de spiritualité parce qu'on sent que le monde est violent. On sent que la politique ne nous rassure plus, que l'économie provoque des incertitudes, que notre société est extrêmement violente. Donc il y a une quête de spiritualité. Mais on la trouve ou on va la trouver ailleurs, et dans des domaines exotiques et lointains. Mmh. Et finalement, peut-être que pour beaucoup de nos contemporains, il nous faudrait un pèlerinage, si j'ose dire, vers l'intérieur, vers notre baptême, vers nos églises. C'est moins exotique que peut-être que certaines traditions spirituelles, mais c'est là qu'on va trouver notre identité. Notre identité spirituelle, notre identité chrétienne et notre vérité.
Mais donc c'est une quête personnelle, intime.
Souvent il y a une quête personnelle, mais il y a aussi une quête sociale. On sent que dans notre société française, il y a beaucoup de personnes qui sont en mouvement. Alors, ils sont déçus d'une certaine vie sociale, d'une certaine vie relationnelle, et ils cherchent une âme, ils cherchent la foi. Et nous voyons aussi dans le domaine politique et dans le domaine social, dans le domaine médiatique, combien de personnes se posent des questions sur la foi. À une époque, la foi, la religion, la spiritualité, les curés, c'était du domaine du mépris presque et de l'abandon. Aujourd'hui, on revient vers certains prêtres, on revient vers la foi, on revient vers l'Église. Mais on le voit avec les catéchumènes, on le voit avec les néophytes. Oui. On voit que beaucoup de personnes, ils nous disent à nous, nous on a été baptisés, après on a tout abandonné, moi je n'ai pas fait la communion, moi je n'ai pas fait la confirmation, je cherche, je voudrais rejoindre la famille, mais avec mes questions, avec mes pourquoi, et dans une atmosphère aussi de confiance et d'échange.
Et ces catéchumènes que vous mentionnez, on se rend compte que parfois, même peut-être souvent, ils arrivent, c'est pas forcément parce qu'on est allé les chercher, d'ailleurs on sait pas forcément très bien comment ils sont arrivés là, mais ils frappent à la
porte.
C'est
là qu'on voit que l'esprit est à l'œuvre. Ouais. Et après, moi je me rappelle, lors de ma première assemblée plénière avec les évêques en 2021, octobre 2021, ouais, avec la crise des abus. C'était catastrophique pour l'Église de France. Catastrophique aussi pour nous, les évêques. Et là, sans aucune stratégie, sans aucune tactique, de jeunes et des adultes frappent à la porte de l'Église. Ils disent, moi je viens, moi je cherche, je ne suis pas baptisé, je voudrais être baptisé, ou je n'ai pas fait ma communion. Et moi je me dis, c'est là qu'on voit quel esprit travaille nos esprits. Et que l'Église catholique n'est pas une question de tactique, de politique, de stratégie, c'est une question de confiance. Et là, quand ces jeunes frappent à notre porte, là, nous devons leur offrir ce que nous avons de meilleur. C'est ça qui est fascinant dans notre mission.
Vous pensez que le travail de vérité que l'Église a fait après la SIAZ, après ces révélations qui ont été très douloureuses, on l'entend bien, vous le redites, vous croyez que ce travail de vérité, finalement, il a aussi envoyé le signal que l'Église pouvait être vraie, pouvait travailler sur elle-même, pouvait faire quelque chose.
Un travail de vérité,
ouais,
est toujours une quête d'authenticité.
Ouais.
Et à la fin, quand on est dans la vérité et dans l'authenticité, on est dans la liberté. Et souvent, on a manqué de liberté parce qu'il y a une forme de protectionnisme, il y a une forme de conservation. Et finalement, quand on est libre, bien, on est tel qu'on est. Et là, le jeune et les adultes qui frappent à notre porte, ils ne veulent pas des réponses automatiques ou strictement doctrinales. Ils veulent être rassurés, ils veulent être éclairés, ils veulent être aussi orientés dans leur vie. Et quand on regarde l'évangile, n'oublions pas Matthieu 5, le discours de la montagne, la première fois que Jésus parle, c'est pour dire heureux, heureux, heureux. C'est un chemin de bonheur. Et quand on arrive à Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, Jésus nous dit, voilà, que votre foi passe par la pratique. Et là, je pense que notre société, est un peu malheureuse, un peu déprimée, a besoin de retrouver l'idéal magnifique de l'évangile, où il y a des paroles, mais il y a aussi des actes. Et c'est dans le mariage entre les paroles et les actes qu'on va donner un sens à notre société.
Alors, des actes, il y en a beaucoup à poser. C'est ce qu'on a compris aussi en matière d'œcuménisme. Alors, j'y reviens, puisque on avait démarré avec ça. Et pour finir sur ce thème de l'œcuménisme, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais pour en revenir donc à la prise de parole du patriarche Bartholomée Ier, donc, qui a eu lieu en tout début de l'Assemblée plénière, c'était un peu l'occasion de revenir sur le sens de l'œcuménisme. Parce qu'au fond, est-ce qu'on n'a pas un petit peu considéré, depuis la rencontre à Assise en octobre 86, que l'œcuménisme, finalement, c'était le dialogue entre des institutions, que c'était quelque chose de diplomatique, voire de politique. Au fond, à quel moment on met notre cœur dans l'œcuménisme ?
Oui, vous avez raison. Souvent, on a vu un côté institutionnel,
oui,
politique, presque tactique de la part de grandes religions, mais on n'a pas vu la dimension importante de l'âme. Et là, je reviens à ce que le patriarche nous a dit. L'âme. Quand on est dans le dialogue œcuménique ou interreligieux, ce n'est pas juste pour nous entendre d'un point de vue tactique. On est là pour essayer d'écouter ce que l'autre vit dans sa foi. Et moi, je trouvais très riche, en tout cas pour moi personnellement aussi, parce que nous sommes habitués, entre catholiques, à nous écouter, à nous conseiller, à nous orienter. On reste un peu dans notre écosystème naturel.
Oui.
Il est juste d'écouter la voix de quelqu'un d'autre qui n'est pas notre ennemi, mais quelqu'un d'autre qui a la foi en Jésus-Christ et qui va nous sortir des paroles. Il va nous sortir aussi des idées et des orientations qui sont différentes, mais qui nous font du bien.
Donc ça veut dire que l'œcuménisme, c'est pas seulement de ne pas se faire la guerre ou de ne pas se taper dessus, c'est vraiment d'entrelacer nos âmes, quoi.
Mais c'est de se connaître, c'est de se comprendre et c'est de mettre en valeur ce qui nous unit. Parce que souvent, quand on se retrouve dans le domaine interreligieux ou œcuménique, souvent on dit, nous, par rapport aux protestants, voilà ce qui nous différencie. Par rapport aux orthodoxes, par rapport aux musulmans, par rapport aux juifs. Et on va dire les différences, elles sont tout à fait légitimes, mais c'est dans la différence et dans les différences qu'on va se retrouver pour se dire, on a quelque chose en commun. On croit en Dieu, et dans le domaine interreligieux. On a quelque chose en commun. On croit en Jésus-Christ, dans le domaine œcuménique. Et je trouvais merveilleux de pouvoir célébrer ce qui nous unit.
Au fond, on s'encourage à être disciple missionnaire. On parle souvent des périphéries, donc de ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas du tout la foi. Presque comme si c'était plus facile, finalement, d'engager un dialogue avec les personnes qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas, plutôt qu'avec des personnes qui croient, mais pas tout à fait comme nous.
Voilà, nous devons... le domaine du dialogue, dialogos, c'est la parole entre deux réalités. Donc, dans le domaine œcuménique, interreligieux, mais aussi avec les non-croyants ou avec les lointains, il ne faut pas les oublier. Les lointains faisant partie de notre famille parce qu'ils ont été baptisés, mais ils sont restés loin. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce dialogue différent selon les personnes et les situations. Un catholique, un baptisé doit être toujours prêt à dialoguer, prêt à rencontrer, parce que nous avons un patrimoine riche. Notre mission n'est pas de dominer ou de manipuler. Notre mission est de rencontrer et de donner ce que nous avons de meilleur et peut-être de sortir ce que l'autre a de meilleur.
Un grand merci à vous, Éminence. Merci d'être passé dans les studios de Radio Présence à Lourdes, alors que vous êtes ici au sanctuaire de Lourdes avec tous vos frères évêques en assemblée plénière. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu.
Merci beaucoup et bonne continuation.